Bon matin, chacun. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Vous savez, les commentateurs vont vous dire on est en train de faire les cadeaux que la famille de Jésus ont eu lorsque le Seigneur est né. Et moi, j'ai hérité de ce beau cadeau. Mais ce cadeau-là, il est appelé, en fin de compte, c'est le cadeau qui... Le perdant, là, c'est un cadeau qui symbolise des choses extraordinaires qu'on va voir ensemble, mais c'est quand même l'or. L'or, en fin de compte, c'est merveilleux. Ça parle de royauté, ça parle du roi des rois, le seigneur des seigneurs. Après ça, il y a eu l'encens qui symbolise la vie parfaite du Seigneur, l'homme parfait de Dieu. Jésus, toute sa vie, est un parfum de bonne odeur à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même a vécu une vie sans péché, sans défaut, sans tâche. Et moi, j'ai hérité de celui qui a laissé de la myrrhe. Et lorsqu'on étudie la myrrhe dans la Bible, vous savez, il y a 8 sortes de parfums dans la Bible. Et la myrrhe est celui qui est mentionné le plus et qui invoque les futures souffrances de Jésus-Christ. C'est un peu comme un enfant vient de naître, là, puis il arrive 3 personnes chez vous. Il y en a un qui arrive avec de l'or. Oui, merci. L'encens, OK, ça sent bon. L'autre arrive avec un petit coffre funéraire, un cercueil. Là, tu regardes le gars, tu dis, ouais, ton cercueil, t'aurais pu me le donner une autre fois, là. C'est... Le mauvais joueur de la gang, là. Le gars, il vient de naître, là. C'est pas le temps d'arriver avec un cercueil, là, mais le Saint-Esprit a mis ça là pour quelque chose, et je crois qu'on va regarder. Notre produit vedette, en fin de compte, comme dirait Stéphane, c'est l'arbre qui produit cette gomme résine qui croise en Arabie. Alors, vous avez une photo ici, là. C'est de l'huile qu'on prenait, même dans Exode 30, 23. C'est de l'huile qu'on prenait pour oindre Aaron et ses successeurs. Il y a aussi la myrrhe qui parfumait les lits, les vêtements. Et si vous regardez Cantique des Cantiques, tout le monde aime ça que ça sent bon, n'est-ce pas? On aime tout ça, oui. Messieurs, je vous donne un conseil. C'est un des instruments les plus merveilleux que Dieu nous a donnés. C'est de la bonne odeur. Parce que la mauvaise odeur, demandez à vos épouses, là, ils ont le nez plus fin que nous autres, qu'on dirait. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, là. Mais quand ça sent bon, ça sent bon. Alors, c'est utilisé dans la Bible aussi, dans ce sens-là. C'est les femmes employaient la myrrhe pour se purifier avant de rencontrer. Et si vous voulez lire une belle histoire d'Esther, 2:12, ça vous explique comment est-ce qu'ils l'utilisaient et comment c'était important pour eux de sentir bon devant le roi qui était pour recevoir ces femmes. Puis en passant, si vous voulez faire un cadeau à votre épouse, je vais vous demander comment ça coûte la myrrhe aujourd'hui. C'est 85,20 $. La petite bouteille qu'il y a là, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Là. Je n'ai pas réussi à voir les onces, mais j'ai l'impression que c'est petit pas mal pour le prix. Ça, c'est à part de la livraison puis de la taxe. Et c'est en US en plus, fait que c'est assez cher. Alors, notre produit aussi, on voit ça que les mages, c'est notre texte en fin de compte de Matthieu 2:11, les mages sont arrivés avec la myrrhe à l'enfant Jésus. Et je me demandais, est-ce que le gars qui arrivait avec la myrrhe réalisait ce qu'il faisait, là, je ne sais pas. Mais la myrrhe était quelque chose qui était très important dans le premier siècle. C'était importé de l'Arabie, puis c'était aussi... l'histoire nous dit que lorsque César est décédé, on a brûlé des tonnes de myrrhe en l'honneur de César. Alors, c'était quelque chose qui accompagnait les gens dans la souffrance et dans les cérémonies funèbres. Et dans le temps du Seigneur, c'était utilisé pour cela, puis aussi pour le parfum qui était là aussi. C'est aussi utilisé comme produit mêlé avec des choses, là. C'était du miel mêlé avec de la myrrhe qu'on offrait des fois aux personnes qui étaient crucifiées comme les drogués, là. Puis ça enlevait un peu la souffrance. Mais le Seigneur a refusé de faire ça. Le Seigneur a dit non, non, moi, j'accepte pas ça. Puis il a détourné son visage. Il n'a pas pris cette drogue qui existait pour enlever un peu de souffrance lorsqu'il était crucifié. On voit ça dans Marc 15, 23. On voit aussi que les aromates destinés à l'embaumement, le corps de Jésus, comprenaient de la myrrhe et de l'aloès. Ça, c'est dans Jean 19, 39. Alors ça, c'est un peu l'histoire de la myrrhe dans la Bible. Ça nous dit que c'est quelque chose qui est commun, puis en même temps tout à fait spécial, qui parle plus, hein, qui parle pas rien que d'avoir des draps ou un lit qui sent bon, mais qui nous parle surtout qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Alors, comme je disais dans mon exemple, personne ne veut parler de ça à la naissance de quelqu'un, n'est-ce pas? On ne commence pas à dire, quand je t'ai acheté un pré-arrangement, quand il meurt, là, ben, tu le feras enterrer. Ça ne se fait pas. Donc, à quelque part, la myrrhe, en fin de compte, c'est un parfum dont la Bible parle le plus souvent, je disais tout à l'heure, qui vient de cet arbre, que le tronc est blessé, puis ça, c'est intéressant, le tronc est blessé, puis ça donne des larmes. Ça donne des larmes, comme vous voyez ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo, j'ai trouvé ça intéressant. Ça donne des larmes, c'est un peu le contraire de que Michel Book, quand il fait ses trous dans les arbres, là, ça sort en liquide, mais là, ça sort en larmes, ça sort en résine, et ça coagule à l'air, et ça forme comme des perles de résine, et c'est ça qui fait, en fin de compte, la myrrhe, qui est extrêmement dispendieux. Donc, à quelque part, on peut se poser la question, pourquoi que le Saint-Esprit a mis cela? Il aurait pu arriver avec un autre cadeau, mais non. Dieu a mis ça dans la Bible, la myrrhe, pour quelque chose. Et moi, je vais marcher avec vous dans cela pour une réflexion ensemble sur la myrrhe, ce cadeau de myrrhe, qui symbolise tellement de choses. La souffrance, la mort, l'au-delà, le pourquoi qu'il est venu, Jésus, etc., etc. On va aller là-dedans ensemble. Et le Saint-Esprit a mis la myrrhe, en fin de compte, qui nous parle de l'humanité de Jésus destinée à la mort et aux sépultures. C'est que l'homme parfait de Dieu, celui qui est le Dieu parfait des hommes, est venu sur cette terre explicitement pour mourir. Mais vous allez me dire peut-être, ouais, on vient tout au monde pour on meurt tout un jour. Mais Jésus, lui, dans cette image de la myrrhe, nous démontre que Jésus est venu sur cette terre, et plusieurs autres textes nous le disent aussi, pour ôter les péchés du monde, comme on a entendu ce matin. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu spécifiquement pour expier les péchés du monde entier. Et à quelque part, on voit que ça l'annonce les souffrances du Seigneur qui va endurer en portant les péchés du monde entier. Le symbolisme est très, très fort. Puis, même si c'est un temps de naissance, écoutez, si on veut être bien honnête, un petit bébé naît. Est-ce que vous croyez que si on en regarde toute sa vie jusqu'à la fin, qu'il ne meurra pas, il n'y aura pas de souffrance? La vie est faite de souffrances. Et la myrrhe représente les souffrances que le Seigneur va vivre dans sa vie et l'embaumement aussi lorsque le Seigneur va être mis dans sa tombe, dans ce trou qui va ressusciter des morts, mais qui doit mourir. Et à quelque part, il y a ce symbole qui nous rappelle qu'en fin de compte, que ces trois cadeaux vont large. Le roi des rois, l'homme parfait et le sacrifice parfait, la rédemption parfaite qui a satisfait la justice de Dieu. Marie, savais-tu que ton petit enfant? Mary, did you know? C'est très populaire. Marie, ça, on l'a vu tout à l'heure, hein? Marie, savais-tu que ton petit enfant serait méprisé et abandonné des hommes? Marie, savais-tu que ton petit enfant était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage? Savais-tu ça, Marie? Savais-tu, Ésaïe, le prophète, lorsqu'il parle, il nous dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le châtiment, hein, et qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le prophète Isaïe prédisait la souffrance de Jésus aussi. Et ce n'est pas le seul texte de l'Ancien Testament, mais c'est un texte qui parle beaucoup de la mire. Parce que la mire représente Isaïe 53. Ça nous emmène à Isaïe 53, la mire. « Marie, savais-tu que ton petit enfant sera blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités? Marie, savais-tu que Jésus sera celui qui sera châtié pour nous donner la paix? Marie, savais-tu que ton enfant, que c'est tombé sur lui, le châtiment qui était supposé tomber sur moi, sur nous? Savais-tu ça, Marie? » Lorsqu'elle regardait cet enfant. Est-ce que tu savais, Marie, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris? Et là, j'ai arrêté là, puis je me suis dit, elle savait, avec le fait qu'elle disait en Dieu, mon esprit, je lui disais, elle savait peut-être des choses, mais peut-être pas toutes. Mais guérie de quoi? Guérie d'un mal de dents? Guérie d'un mal de dos? Guéri d'un mal de genou. Là, je viens de vous dire où j'ai mal dans cet incite, non? Puis, ça fait partie de l'usure, comme disent les médecins. Mais j'aimerais faire une petite note ici. Vous savez, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Vous savez, la guérison que le Seigneur apporte, la plus belle guérison, c'est de nous guérir de notre errance loin de Dieu. On errait. On était comme une planète qui vire sur elle-même dans le cosmos, qui ne sait pas trop ce qui s'en va. Et le Seigneur a fait retomber sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et c'est par ses souffrances, ses meurtrissures, que nous sommes guéris de notre errance loin de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on suivait chacun notre propre voie. L'être humain est un ingénieur pour tricoter des religions. Comment faire pour plaire à Dieu? Comment faire pour être bon? Comment faire pour être pur? Comment faire pour être accepté des divinités qu'on a inventées? L'être humain, c'est un inventeur de religions. Mais la Bible nous dit que celui qui nous a donné la paix, c'est lui qui a eu le châtiment, c'est lui qui nous guérit de notre errance loin de Dieu. Vous savez, Marie, savais-tu que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous? La substitution. Le non-coupable a pris la place des coupables. Celui qui était sans péché, sans défaut, sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui qui était juste. L'Éternel, Dieu dans le plan rédempteur de Dieu, Dieu a prévu de faire de lui le sacrificateur et le sacrifice. Cette victime propitiatoire, grand mot, celui qui est le sacrificateur et il est celui qui est le sacrifice en même temps. Et c'est pour cela que personne ne peut arriver et dire, je vais gagner mon ciel, je vais faire des bonnes œuvres. Je vais donner de l'argent, je vais livrer mon corps en sacrifice, je vais vivre à genoux toute ma vie, puis je vais mériter le ciel. Personne ne peut dire cela parce que c'est Jésus qui a pris notre place. Lui qui était sans péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et si le Père, lorsque le Père nous regarde, il nous voit au travers de son Fils justifié à cause de Jésus-Christ. Est-ce que Marie savait cela? Marie, savais-tu que ton petit enfant sera maltraité et opprimé? La mire nous parle de la souffrance, d'être maltraité, opprimé. Et Isaïe, le prophète, 800 ans avant Jésus-Christ, 8e siècle, nous dit, « Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau, donc on mène à la boucherie. » À une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, élevé par l'angoisse et le châtiment. La mire nous emmène dans les détails de la souffrance de Jésus-Christ, qui a fait en sorte que lorsqu'il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tous les enfants de Dieu connaissent la réponse. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas la réponse à cette question-là, s'il vous plaît, on aimerait prier avec vous, parler avec vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mire nous rappelle les souffrances, la mort du Seigneur à la croix. Et ça nous rappelle que celui qui est venu dans le monde, celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à retenir à tout prix, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en étant un vrai homme, et celui qui est monté sur la croix, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la naissance, c'est que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle comporte de la souffrance, comporte un décès. Lorsqu'on dit « j'ai une bonne nouvelle », par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, vous pouvez avoir la vie éternelle. C'est gratuit, c'est une grâce. Oui, mais quelqu'un a payé pour cela, mes amis. Quelqu'un a payé pour la grâce, et c'est Jésus-Christ qui a payé la dette de nos péchés. L'Évangile en 2017 est toujours aussi clair que lorsque le Seigneur Jésus est né. Aussi clair. À cause de ces trois cadeaux qui nous représentent le Sauveur, Jésus-Christ, le Roi des rois, l'homme parfait de Dieu, le Dieu parfait des hommes, qui nous montre la mort et la souffrance de Christ à la croix pour satisfaire la justice de Dieu. Et si on peut se regarder ce matin les uns les autres dans les yeux puis se dire « enfant de Dieu », ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est une conviction qui vient du Saint-Esprit, qui vient dans nos cœurs et qui nous fait réaliser et saisir qui est vraiment Jésus-Christ. On peut être emballé avec les cadeaux qui vont aller à gauche et à droite. Et tous les cadeaux qu'on a faits aux gens cette année vont tous briser un jour, vont tous disparaître un jour. Mais le cadeau qui vient du ciel est éternel. Quel privilège qu'on a de comprendre. Lorsque je parle, puis vous comprenez ce que je dis, quelle joie! Et s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on dit ce matin, s'il vous plaît, venez au pied de la croix. Reconnaissez Jésus comme sauveur et maître de votre vie, parce qu'il a payé la dette de nos péchés. Marie, savais-tu que l'angoisse et le châtiment étaient pour tomber sur lui? Et il a crié... Il pose la question, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi qu'il a posé la question? Il ne savait pas. Oui, il savait, il a posé la question pour nous. Pour qu'on y réponde. Marie, savais-tu que ton petit enfant sera brisé par la souffrance, sa vie sera en sacrifice pour le péché, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Regardez, il n'y a plus à l'Éternel. C'est assez intéressant le verbe hébreu, là. C'était dans le plan de Dieu. Jésus s'est livré lui-même, Dieu l'a donné, et le Saint-Esprit a confirmé ce don. La Trinité entière s'est donnée pour nous. Et c'est pour cela que, lorsqu'on dit « montre-nous le Père », bien, pensons-y, là. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Regardez Jésus, vous voyez Dieu. Regardez, écoutez Jésus et vous voyez Dieu. Avec les yeux de la foi, voir que le Seigneur a été brisé. C'est le plan rédempteur de Dieu. Le rachat, rédemption veut dire rachat. C'est le rachat de l'humanité, de l'usurpateur qui est venu nous mettre des bois dans les roues qu'on appelle Satan. Qui est venu prendre l'autorité que Dieu nous avait confiée. Mais par amour pour nous, Dieu a décidé de revenir sur la planète Terre, de venir dans un corps humain sans péché, sans défaut, sans tâche. Et la postérité de la femme, comme prophétisé dans Genèse 14-15, va écraser la tête du serpent. l'œuvre de l'Éternel prospérera. Bien, moi, quand je lis ça, c'est vous que je pense? On est en 2017. Dans le premier siècle, lorsque on voit tout cela, on se dit à nous autres mêmes, comme certains le disaient dans ce temps-là, « Ah, si c'est de Dieu, ça va continuer, mais si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître, cette affaire-là. » Vous savez, j'ai eu la même pensée qu'Anne-Marie, quand j'écoutais cette semaine les chanteurs populaires chanter « Il est né le divin enfant », surtout, là. Je me disais à moi-même, comment est-ce qu'ils font pour chanter? C'était tellement professionnel, là. C'est vraiment bon. Il a une belle voix, le gars, là. Puis, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un gars costaud comme moi, là. Puis, il a une voix, c'est beau quand il chante, là. C'est des frissons quand tu réfléchis aux paroles, là, en même temps que la toune, là. C'était des frissons, tu sais. Puis là, tu te dis en toi-même, comment est-ce qu'ils peuvent chanter ça puis pas comprendre? Parce que dans la toune puis dans les paroles, il manque une chose, c'est le Saint-Esprit. Si le Seigneur parle à vos cœurs ce matin, si vous devez faire la paix avec Dieu, c'est le temps. Parce que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Puis on ne sait pas ce qui va arriver. C'est de la pré-évangélisation, en fin de compte, ces sortes d'émissions-là. Même dans nos familles, la place la plus difficile à témoigner dans nos familles, dans le temps des fêtes, on peut dire à nos familles, « Hey, as-tu entendu un tel qui a chanté « Il est né le divin enfant »? » C'est la fête de qui? Dans les beaux malaises, ils font une fête en entour de la table. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pogné cette phrase-là. Celui qui est, tu sais, le frère de Martin Matt, là, qui a un problème, il a plus de mémoire immédiate. Là, il perd la mémoire tout le temps. Puis là, ils ont assis autour de la table, puis c'est l'occasion de Noël. Et puis, il dit tout le temps, « Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la fête de qui? C'est la fête de qui? C'est la fête de qui? » Puis Matt, il dit, « C'est la fête de Jésus. » Un clin d'œil, ça. Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a dit dans les médias que c'était la fête de Jésus? Pas entendu, moi. J'ai entendu des beaux cantiques. Mais c'était pas vraiment cela. Mais, ça, je vais revenir à mon affaire. L'Éternel, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous savez, le Seigneur, il a dit, « Je bâtirai mon Église, le séjour des morts ne prouveront point contre elle. » Dieu va mener à bien son œuvre. Son sacrifice est parfait, son plan est parfait, Dieu est souverain. On n'a pas à s'inquiéter, Dieu il a le dernier mot de l'histoire. Ceux qui sont en train d'étudier l'Apocalypse, ils savent, on est dans le dernier rideau, la dernière scène. Le propriétaire de l'univers va fermer ça, la boutique, un jour, il va arriver avec les clés, puis il va fermer la boutique, puis on va passer à d'autres choses. Mais en attendant, l'œuvre de l'Éternel prospère. Dans les cœurs, parce que Dieu cherche des cœurs qui ont soif et faim de justice. Ceux qui cherchent Dieu, cherchez, vous allez trouver. Et c'est cela qui est important pour l'Église, de se souvenir. Même si la mire nous parle de ses souffrances, de l'angoisse, du sacrifice de Jésus, pour nous est une bonne nouvelle. Parce que par amour pour nous, Christ s'est donné à la croix. Marie, savais-tu que ton petit enfant sera un jour appelé Emmanuel? Vous savez, il y avait une coutume parmi les Hébreux. Il y avait, dans le temps des fêtes, des pains sans levain. Ils cachaient des petits... Ils mettaient ça dans... Il n'y avait pas de sac dans ce temps-là, mais ils enveloppaient, ils cachaient des petits tas de levain dans la maison. Et c'était pour les trouver, tu sais. Ils cherchaient pour enlever le levain qui représentait le péché. Et puis, il y avait... Et chaque... Les jeunes filles d'Israël espéraient tous d'être la jeune vierge qui viendra enceinte. C'était l'affaire qui était dans toutes les familles. C'était 800 ans avant Jésus-Christ, là. Puis au premier siècle, on attendait encore le Messie. Puis même aujourd'hui, dans certaines places, on attend encore le Messie. On attend le Messie parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et on attend le Messie. Et dans le temps de Marie, là, toutes les jeunes filles, vierges, espéraient être la porteuse du Messie. Marie, savais-tu que ton petit enfant sera appelé Emmanuel? Quel beau nom, hein? Emmanuel, Dieu avec nous. Savais-tu, Marie, que ton petit enfant sera obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix? La Myrrhe nous rappelle cela. Marie, savais-tu que ton petit enfant sera appelé admirable conseiller? Vous avez des décisions à prendre? Vous avez des choix à faire? Consultez ce que la parole de Dieu en dit. On n'a pas meilleur conseiller que le Seigneur Jésus lui-même. Son enseignement, sa morale, la manière que le Seigneur réagit vis-à-vis des gens, les ennemis, les amis, les gens qui doutent, la manière que on doit nous réagir, ressembler de plus en plus à Jésus parce qu'on est prédestiné à être semblable à Jésus-Christ et cette transformation se fait avec la souffrance aussi. Mais elle se fait dès notre nouvelle naissance spirituelle. Elle se termine au ciel lorsqu'on le voit face à face. Et nous, là, nous allons le reconnaître et on va le connaître comme qu'il nous a connus. On l'appellera aussi Dieu puissant. Vous savez, dans les évangiles, lorsque les soldats viennent pour l'arrêter, puis ils cherchent Jésus à Gethsémané, hein, souvenez-vous. Il a dit, oui, qui est Jésus? Il a dit, c'est moi. Ils ont tous reculé, puis ils ont tombé par terre. Moi, ça m'est jamais arrivé, en fait de même. Jamais, jamais. Puissant. Ressusciter les morts. Fait voir les aveugles. Mes amis, c'est Dieu. Et puis, les soldats, quand ils sont venus pour l'arrêter, une première fois, ils ont retourné bredouille, puis ils ont dit à leur boss, au sanctuaire, ils ont dit, « Jamais un homme a parlé comme cet homme. » Il parlait avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il parlait basé sur l'Ancien Testament. Parce qu'on avait perdu les Écritures à ce moment-là. On était rendus dans toutes sortes d'autres livres. On a méprisé la Bible. On ne lisait plus la parole. Et c'est une inquiétude, ça, que nous devons avoir. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Est-ce que nous apprenons la parole de Dieu? Mes amis, c'est une exhortation pour nous aider à passer au travers des temps difficiles de nos vies. La Myrrhe nous rappelle qu'on est tous des êtres fragiles. On tient tous par un fil. Des fois, je dis aux aînés, vous savez, entre deux rencontres de médecins, quand tu rencontres ton médecin, entre deux rencontres, là, tu ne sais pas ce qu'il va t'annoncer la prochaine. On tient par un fil. Je ne veux pas vous faire peur, là. Mais la Myrrhe fait partie de nos vies. La souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'on regarde ce beau petit enfant, on a vu un film, hein? C'est beau, un beau petit enfant. Personne n'a l'idée de lui donner un cercueil comme cadeau, ce petit enfant-là, n'est-ce pas? Vous en pensez? Non? Mais la vraie vie, mes amis, là, c'est qu'on a tous un cercueil qui nous attend. Mais le cercueil du Seigneur est un cercueil qui fait en sorte que lui qui était sans péché, sans défaut, sans tâche, a pris notre place afin qu'on ait la vie éternelle et vainque la mort. Combien donneriez-vous pour avoir cette fontaine de jeunesse? Comment vous êtes prêt à payer? 85$ pour un 3 onces? On donnerait n'importe quoi. Mais le monde, ceux qui ne savent pas, vous le savez, c'est quelqu'un déjà payé pour avoir la vie éternelle. Il est offert gratuitement, par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. Dieu puissant. Père éternel, celui qui m'a vu a vu le Père. Écoutez Jésus. La Trinité, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, « Ah oui, mon petit gars m'a dit une fois, « Père, pas capable, il dit, il s'est plein de sang, mon cœur. » C'est vrai? Qu'est-ce qu'on veut dire? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Père vient habiter en nous. Jésus vient habiter en nous. Il nous influence pour prendre des bons choix dans nos vies et honorer son nom parce, à cause de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu de nouveau. Et le quatrième, c'est prince de la paix. Vous savez, la paix. Ma mère disait, je vais avoir la sainte paix, t'es pas un cadeau, toi. Avoir entendu cette expression-là, t'es pas un cadeau. La sainte paix, la paix. Qu'est-ce que la paix? Quand je parlais de ça à quelqu'un dans l'évangélisation, il me disait, bon, je ne suis pas en rébellion contre Dieu, moi. J'aimais ça dans le petit film, ils disent, hein, même si on ne sait pas, on est en rébellion contre Dieu. Même si on ne sait pas, on est en rébellion contre Dieu. Même si on ne sait pas, on est loin de Dieu. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Tant que Jésus n'est pas celui qui est la pierre angulaire, celui qui a été choisi pour être cette pierre angulaire sur laquelle tout est calculé, importante. Mes amis, ce prince de paix nous a amené un de ces beaux cadeaux qu'on parlait ce matin. La paix avec Dieu. On est appelé enfant de Dieu, enfant de lumière. Frères et sœurs, quel beau cadeau qu'on a. Comme Stéphane a dit tout à l'heure, notre nom est écrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. La paix avec Dieu nous amène à réfléchir sur la paix de Dieu dans notre vie chrétienne. Et souvent, cette paix de Dieu dans notre vie chrétienne est perturbée par des mauvais choix, des péchés qu'on aime beaucoup, des décisions qu'on prend sans consulter Dieu. On a toujours la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu dans notre vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on doit y travailler sérieusement. Et le Seigneur nous a emmené tout cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'efficacité de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on regarde les images traditionnelles et on réfléchit là-dessus, on se dit à nous autres mêmes, voici ce beau petit bébé. Moi, je suis content qu'il y ait eu de l'or, qu'il y ait eu de l'encens. Mais plus que je vieillis, plus que je réalise que la mire est importante pour nous autres. Parce que ça représente les souffrances. Ça représente la mort du Seigneur. Et le Saint-Esprit a mis la mire dans la Bible pour nous réaliser le prix de la grâce, frères et sœurs, chers amis. Le prix de la grâce. Et on voit la croix. Parce que la mire va à la croix. On voit la mire à la naissance de Jésus avec le cadeau. Ensuite, on voit la mire qui a été offerte avec du miel au Seigneur à la croix. Et on voit la mire qui englobe, avec l'OS, qui englobe Jésus dans sa mort. Et voilà toute la signification de la mire. La mire à la naissance, petit enfant. La mire à la croix. Et la mire dans le tombeau. Et ça nous donne le message de l'Évangile. Que vous connaissez tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une belle nouvelle, ça? Vous en pensez? Faites oui, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse ensemble réfléchir à tout cela. Parce que de la crèche à la croix, de la crèche à la croix, par Dieu paix sur la terre, aujourd'hui que Christ est né, Jésus fait notre père, un sauveur nous est donné. Joignez-vous à nous. Réfléchissons aux paroles. Fils du Dieu très haut,
vienne nous les bonheurs et la grâce couronnée. Jésus est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus est fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Bergers et mages, aux pieds de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, Israël prosterné, Jésus est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus est fait notre Père, un sauveur nous est donné.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai tellement entendu de cantiques par du monde qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Je me suis dit, on va terminer comme ça. On est tellement habitué, puis ça arrive avec la parole de Dieu aussi, hein? On est tellement habitué de lire qu'on ne laisse plus. On ne laisse plus la parole nous pénétrer. Puis on chante, puis on dit des choses. C'est du mécanisme intellectuel. Et ce matin, je voulais qu'on chante ensemble à cappella comme ça, pour qu'on réalise les paroles. Tellement pris pour acquis par les gens, mais pas par les enfants de Dieu. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour le temps ensemble. Seigneur Dieu, c'est un temps propice pour nous de proclamer celui qui est mort et ressuscité des morts pour nous, celui qui nous donne la vie éternelle, celui qui est né littéralement afin de mourir pour nous. Et Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance et nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Et aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à ne pas chanter ces cantiques par habitude, mais par conviction. Chanter ces cantiques et de saisir ces vérités profondes. Voir ces cadeaux et de saisir l'emblème qu'ils représentent, le symbole qu'ils représentent, que ce soit l'or, l'encens et la myrrhe, que pour nous chrétiens, que ce ne soit pas une chose culturelle ou traditionnelle, mais une chose biblique. Parce qu'il nous parle de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-nous dans nos familles. Donne-nous de la sagesse. Donne-nous des paroles de paix, de joie, de réconciliation. Et fais de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. Amen. Amen. Amen.